Wanted Radio. Première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio.
Ça va?
Bien toi?
Oui, Samuel.
Ça fait un moment.
Ça fait un moment, on se retrouve. Ah, salut mes petits vertueux, mes petites vertueuses. On se retrouve à Solution Nature après des mois.
Oui, des mois d'absence.
Des mois d'absence. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'on a déménagé. On a des nouveaux locaux, super sympas, où on est tout seul, tranquille.
C'est déjà ça.
Et voilà. Et au milieu des arbres, parce qu'il y a un joli petit jardin, on a un petit balcon qui a vue sur un jardin et des arbres, donc c'est formidable. Donc il a fallu déménager, ranger, réaménager, etc., etc. Donc et puis du coup, en même temps que le déménagement, eh bien on s'est tous posé des questions parce que sur la chaîne Wanted Media avec Samuel, donc qui est le président, voilà, oui. président, mon copain. Voilà, et qui on s'est posé des questions, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut en faire, on sait qu'on veut aller, etc., etc. Donc du coup, ça a pris du temps et on va vous dire tout ça à la rentrée, à une grosse journée le 6 septembre,
c'est ça, pour les 10 ans de la radio. Et donc il y aura une chronique Solution Nature. Pour un peu raconter ce qui va se passer pour la nouvelle saison qui commence en septembre.
La nouvelle saison, tout à fait. Puisqu'on ouvre de nouveaux chantiers, de nouveaux horizons, etc. Alors bien sûr, je vous rassure, on vous tiendra toujours au courant de ce qui se passe sur Euratlantique à Bordeaux.
Voilà. Hein,
parce que quand même, c'est notre chantier emblématique.
Exactement.
Voilà, on a vraiment, on les aime bien, Euratlantique, on n'a rien contre eux, mais vraiment, il suffit d'aller se promener, comme je le dis à chaque fois, pour se rendre compte de l'aberration que est Euratlantique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Euratlantique, c'est se situe derrière la gare à Bordeaux, 33 000, dans le sud-ouest de la France. Et donc, c'est 780 hectares préemptés par l'État, donc c'est piloté par l'État, vendu parcelle par parcelle à des promoteurs qui, bâtissent des immeubles à n'en plus finir, avec des hauteurs qu'on n'a jamais vues sur Bordeaux. Un mini New York, on dit.
C'est vrai.
Voilà. Des immeubles qui sont très proches les uns des autres. Donc vous pouvez vous passer le sel et le poivre d'un bâtiment à l'autre, avec aucun vu, aucune horizon, et puis des pauvres arbres qui essaient de vivre là-dedans, des espaces verts totalement faméliques et totalement déshumanisés. Donc c'est d'être un îlot de chaleur formidable, un ogre qui consomme une énergie folle. Parce qu'en plus, on veut faire des bâtiments frugaux, mais comme les bâtiments frugaux...
C'est quoi un bâtiment frugaux?
C'est un label.
D'accord.
Tu vois, qui doit être bas carbone, qui ne doit pas consommer beaucoup d'énergie, etc. Okay. Mais comme c'est super mal pas bien construit, en fait, le truc, c'est que il y a des gens qui commencent, enfin des habitants qui commencent à râler parce que d'abord il y a des malfaçons, ensuite ils n'ont pas de volets, donc avec les températures de l'été, ils cuisent littéralement. Donc ils sont dans des cocottes minutes à l'intérieur, ils ne peuvent pas mettre de clim parce que c'est interdit, et il y en a d'autres qui mettent des clims, donc du coup vous avez des immeubles entiers qui sont recouverts de clim, donc vu la consommation d'électricité sur des bâtiments normalement qui ne devraient pas en consommer, la consommation d'eau aussi énorme, alors que nous n'avons pas trop d'eau à Bordeaux Métropole et qu'on commence à aller piquer l'eau chez les voisins, c'est-à-dire dans le Médoc. Il faut se le dire quand même, on ose quand même, nous, ici, aller voir les Médocains et dire, écoutez, on va capter de l'eau chez vous, mais ce n'est pas pour vous. Vos forêts vont s'assécher, elles n'auront plus d'eau, mais nous, à Euratlantique, on aura de l'eau. C'est quand même un monde quand même de prédation. C'est quand même un monde de prédation, et etc., etc. Donc, le dernier en date...
En fait, ce que tu dis, c'est qu'on développe plus que ce que la Terre peut fournir pour ses...
Mais oui, mais tout le monde le dit. Donc ça, on en a bien conscience. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant, on en avait conscience, me semble-t-il. On nous le disait, mais ça ne se voyait pas trop sur le terrain. Maintenant, les gens s'en aperçoivent parce qu'ils sont les premiers victimes. Mmh. Inondations, canicules, malfaçons. Vous avez aussi le retrait des argiles là, à cause de la sécheresse, des machins, etc., des trous partout. Donc, du coup, vous avez les maisons qui s'écroulent. Voilà. Donc, maintenant, les gens s'aperçoivent que ce n'était pas tellement des conneries que disaient les scientifiques du GIEC et qu'ils commencent à, ça commence à leur arriver des bricoles. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce que vous avez de plus en plus de collectifs et de gens qui disent eh bien, stop, non, comme pour la 69, tout ça, etc. Voilà. Après, vous avez toujours en face des gens qui s'accrochent au modèle qui leur convient le mieux. Hein. C'est-à-dire que c'est sûr que quand vous êtes dans un fauteuil avec tout le confort que vous avez pas envie de le lâcher, c'est sûr, même si demain vos petits-enfants doivent brûler, c'est pas grave sur le moment, voilà, c'est pas important. Donc du coup, mais ça se voit plus. Et là, Euratlantique, comme il y a beaucoup de bâtiments qui sont construits maintenant et qu'il y a des comment dire, que ça fonctionne, qu'il y a des habitants qui essaient de vivre dedans, et que là tout d'un coup ils s'aperçoivent que c'est pas vivable du tout. Alors que nous, ça fait des années ici qu'on le dit.
Ça fait des années qu'on le dit, oui.
Que ce n'est pas vivable du tout, que le collectif Amédée Saint-Germain le répète aussi sans cesse, que ce n'est pas vivable du tout. Mais là, voilà, les gens qui sont confrontés, qui y habitent, que ce soit des locataires, des propriétaires, etc., eh bien, voilà, ils s'aperçoivent que non, ce n'est pas vivable du tout pour des humains, quoi. C'est des boîtes où sont entassés des gens et qu'aujourd'hui, climatiquement et autres, ce n'est pas vivable. Donc, vous avez... Eh bien, on restera un petit peu sur Atlantique.
Oui.
Voilà. Et puis, on fera un petit peu le tour. Il y aura peut-être aussi des interviews. Enfin, voilà, on va se réserver le droit d'être surprenant.
Ok, donc la nouvelle saison s'annonce encore...
Éclectique, aléatoire et surprenante.
Voilà.
Tout à fait.
Tout à fait.
Voilà, ça sera suivant l'humeur, suivant l'actualité.
Voilà, en dénonçant un peu les mauvais choix de bâti,
oui.
Tout en conseillant les bonnes façons de faire.
Voilà, tout à fait. Aussi, il faudra aussi des bonnes nouvelles et puis des gens qui sont raisonnables.
Tout à fait.
Voilà,
est-ce qu'on aura un peu de retour sur cette fameuse LGV Bordeaux-Toulouse ?
Alors, LGV Bordeaux-Toulouse, alors oui, bien sûr, on va suivre le dossier, comme la 69 et comme tous les gros dossiers, en fait, qui sont climaticides et surtout destructeurs du vivant. Parce qu'après, tu sais, moi, je me dis, après tout, le dérèglement climatique, il est dérèglement climatique, mais que pour nous. Tu vois ? Pour les êtres vivants.
Oui.
Parce que les arbres, la nature et tout ça, dans l'échelle planétaire depuis que la Terre a été créée, des événements climatiques, ils en ont vécu, un paquet. Voilà. Il y a eu l'astéroïde qui a tué tous les dinosaures, les machins comme ça, les périodes glaciaires, et tout ça. Donc, entre guillemets, j'allais dire, ils ont l'habitude, quoi. Ils ont cette mémoire-là, les arbres et tout ça, de se dire, bon, il y a des moments...
Ils ont su s'adapter, se renouveler.
Voilà, se renouveler, changer de forme, changer de stratégie, etc. Donc, du coup, à la limite, pour eux, ça peut même paraître d'être un genre d'évolution presque naturelle, quoi.
Okay.
Donc, le dérèglement climatique.
Mais c'est
donc,
pour nous.
Mais pour nous, c'est chaud.
Oui.
C'est ça le truc. Et les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils se disent, oui, c'est là. Non, non, c'est nous, en fait. C'est notre capacité à vivre aujourd'hui qui est remise en question. Et c'est ça qui est chaud, en fait. Et c'est ça qui est angoissant. Et j'ai écouté des scientifiques qui disaient que c'est ça qui les angoisse beaucoup. C'est que les gens ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre ou n'ont pas envie d'entendre cette vérité qui est un fait maintenant, qui est un fait. Puisqu'il y en a de plus en plus de gens qui meurent à cause du dérèglement climatique, notre survie ici est quand même un petit peu...
Est-ce que tu penses que pour les humains, il y aura comme il y a eu pour les dinosaures il y a quelques millions d'années, un renouvellement de la vie humanoïde sur Terre ?
Alors, écoute, je sais que la nature a horreur du vide, et que de toute façon, la planète, qui est un organisme à part entière, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vivre sa petite vie. Et puis elle va dire, ceux qui sont trop faibles, qui ne sont pas adaptables et qui sont obsolètes, ils vont disparaître, comme les dinosaures ont disparu parce qu'ils étaient obsolètes à un moment donné de la vie de la planète. Et puis une autre forme de vie qui sera plus adaptée au nouvel environnement va apparaître. Alors est-ce que ça sera humain? Je ne sais pas, ça peut être une fourmi à trois doigts ou je ne sais pas moi, ça peut être un truc ou comme la planète des singes, je ne sais pas, tu sais la fameuse planète des singes où c'est les singes qui et les humains, tout est possible.
Tout est réalisable.
Et oui. Et donc du coup, ben voilà, c'est-à-dire que moi je suis en train de lire un bouquin qui est super intéressant, ça s'appelle Jungle. C'est un anthropologue qui lit ce bouquin, qui a écrit ce bouquin et qui montre en fait que c'est grâce à l'environnement que nous sommes. Les mammifères ont pu vivre et ont pu évoluer. Et c'est grâce aux mammifères et la façon dont ils ont évolué que la nature est devenue ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, on s'influence mutuellement. D'accord ? C'est-à-dire que la nature nous influence dans notre évolution et la qualité de nous, des humains, influence la nature dans son évolution. Donc, c'est même pas se poser la question est-ce que demain ça sera habitable pour nous ? C'est se poser la question demain. Comment je veux vivre, moi ? Voilà. Est-ce que je veux continuer à prendre l'apéro sur ma terrasse, sans risquer la brûlure au quatrième degré ? Tu vois ?
Oui.
Ou d'être bouffé par des moustiques aussi gros que des sauterelles, par exemple ? Ou est-ce que j'accepte d'être confiné tous les étés chez moi avec la clim pendant 10 jours ou 15 jours ou 20 jours à l'année parce qu'il fera 60 degrés dehors ? Voilà, fini les terrasses. Fini les terrasses, c'est ça la question. Tu comprends ?
Oui,
qu'est-ce que tu voudrais ? Tu sais, c'est les blagues à la con. Qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères avoir un troisième bras dans le dos ou, tu vois, c'est une question à la con.
Ou une jambe en mousse.
Ben voilà, c'est là la question.
C'est dans les deux cas, c'est gênant.
Ben voilà, donc la question c'est, est-ce que tu préfères faire des efforts aujourd'hui, tu sais, des efforts aujourd'hui pour que demain tu puisses continuer à profiter de ta terrasse avec tes poteaux, tu sais, barbecue, apéro et tout ça. C'est ça la question, ou pas ? Voilà.
Ok.
Après, à chacun de répondre. Ici, nous, on est contre, hein, on veut continuer à profiter de la terrasse l'été. Donc, on va vous parler de ça. On va vous parler de tout plein de choses. Et d'ailleurs, écoutez, on va prendre des nouvelles de tout ce qui s'est passé là depuis les quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau environnemental ? Un truc qui t'a interpellé là ces derniers mois ?
Non, mais j'ai beaucoup. Il y a des choses, des faits d'actualité qui m'ont interpellé, certaines de nos émissions.
Oui.
On parlait un peu de la LGV, de la 69, etc. Je me dis, ah tiens, je m'en souviens que Valérie l'avait traité.
Ah ouais, t'as vu, hein ?
Oui.
T'as vu ? On était devant, nous sommes devant. Oui. Voilà, on anticipe. Il faut écouter nos émotions. Oh là là, le lapsus. Il faut écouter nos émotions et nos émissions. Parce que, voilà, on vous prédit l'avenir, nous, ici. Donc, faites attention. Ça va être, on va faire
c'est
un
ça.
Petit truc, voilà.
C'est
on va
ça.
Faire tourner les tables et chut, voilà, etc.
Et les serviettes.
Non, mais t'as pas un truc que tu te dis ah mais merde, c'est con ce qui arrive.
Ben non, parce que en fait interpellé non, parce que maintenant avec tes émissions sur lesquelles j'ai beaucoup appris sur la nature. Du coup, si tu veux, à chaque fois que j'entends une annonce concernant la nature ou le dérèglement climatique, ou tout comme ça, ben, je me dis ah oui. Normal vu ce qui était annoncé.
Ça te permet de comprendre mieux ce qui se passe en fait.
Oui, alors je te donne l'impression de ne pas écouter tes émissions.
Oui, mais tu écoutes en
mais
fait.
En fait, je les écoute.
C'est super sympa. Eh bien, écoutez, moi, que vous dire des derniers mois qui sont passés et qu'on n'a pas fait d'émission ? Eh bien, moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est en fait le recul manifeste de toutes les positions pro-écologiques des gouvernements et qui reculent, mais tellement que je sais pas où c'est qu'ils vont atterrir. C'est-à-dire, ils sont revenus sur la loi ZAN, donc zéro artificialisation nette. voilà, qui n'a plus rien à voir maintenant. Ouais. Ils reviennent maintenant aussi sur les recours en cas de projet où on va être de plus en plus embêté pour faire des recours, même si vous êtes un simple particulier qui ne veut pas voir un bâtiment de 20 étages à côté de son jardin. Ils sont revenus sur les financements. Ils sont revenus en Amérique, n'en parlons pas, où tout est déni. Mais un truc que je ne savais pas, en fait, c'est que c'était beaucoup les Américains qui étudiaient le climat, en fait, qui faisaient les gardiens, entre guillemets, de ce qui se passait dans le climat, parce qu'ils avaient beaucoup de matos et puis ils avaient beaucoup d'équipes qui travaillaient dessus. Et le fait que Monsieur Trump, dans sa sagesse bizarre autant qu'étrange, décide de
réduire les budgets, non ? Il n'a pas réduit les budgets
Non, mais il a tout éliminé, il a tout arrêté. Il a tout arrêté, en fait, d'arrêter tout ça, parce qu'il est dans un déni de climat extraordinaire. Ça fait qu'il y a plein d'outils qui surveillaient des constantes et tout ça, etc., qui n'existent plus. Donc, imaginez qu'avant, on était dans une voiture qui roulait à 200 à l'heure avec un conducteur fou et qui allait droit dans le mur. Et on essayait de la faire ralentir. Maintenant, le conducteur est toujours aussi fou, mais il a un bandeau sur les yeux.
C'est une nouvelle façon de voir les choses.
Voilà comment c'est. Donc, on ne sait pas où on va aller, puisque les Américains n'ont plus, enfin, les scientifiques qui étudient le climat en Amérique n'ont plus les moyens de l'étudier et de le surveiller et de vérifier toutes les constantes qu'ils vérifiaient, etc. Donc, avec les satellites et tout ça auxquels ils avaient accès. Mmh. Et donc, du coup, il va nous manquer plein de données. Après, c'est fait exprès. Hein. Oui. C'est-à-dire, moins tu as d'infos sur un sujet, moins, du coup, tu peux dire attention, etc. Donc, tu vois, il vaut mieux, c'est la fabrique de l'ignorance, en fait. C'est facile. Donc, moi, c'est ça qui m'a le plus interpellée cette année, c'est que ce soit en France ou dans tous les autres pays, c'est ce recul. Sous prétexte du Covid, de la récession, de la guerre, de machin, de bidule, de la chemise jaune de Donald, de je sais pas quoi, parce qu'il s'est levé du mauvais pied ou je sais pas quoi, sous prétexte de tout ça, on a fait un recul immense sur les protections environnementales et sur le climat. Alors, qui dit protection environnementale, c'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre. Mais tu vas peut-être m'expliquer, c'est-à-dire que qui dit protection environnementale dit quand même protéger sa gueule. C'est la base, tu vois.
Oui,
hein,
oui,
voilà,
oui.
D'accord. C'est protéger sa maison, protéger sa voiture, protéger sa famille, protéger son emploi. C'est protéger tout ça, en fait. Tu vois, c'est la base, c'est le premier poste. Tu protèges ton environnement et comme ça, tout le reste est protégé. Voilà. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on dit on protège le reste et l'environnement. Ben, si on a le temps, on verra ça. Donc, du coup, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Je voulais vous parler de Canopia, mais on n'a pas le temps parce qu'on fait une petite émission là juste pour rafraîchir.
Et nous, quand même, un petit peu.
Les choses.
Oui, pour nous rafraîchir la vie.
Alors, Canopia, c'est le nouveau projet de Ratlantic, bien sûr. Donc, j'ai quelques chiffres qui sont quand même assez parlants. C'est 3,6 hectares de foncier, ce qui est quand même énorme. Donc, c'est sur des friches industrielles. Attention, ils n'ont pas détruit des parcs et tout ça. Hein. Il y a 2 hectares de parcs qui vont être créés. Donc, moi, après, je vous dis, ouais, super, 2 hectares de parcs. Attention. Je mets un petit bémol parce que Euratlantique ne sait pas faire de parc. Il suffit d'aller voir le jardin de Lars à Lars. Ils ne savent pas faire de parc. Ils ne savent pas planter d'arbres. Ils ne savent pas faire des parcs vivants, donc, etc. Donc ça va être... Moi, j'attends de voir quoi, si ça sera un vrai parc ou si ce sera juste une promenade bétonnée avec 3-4 arbres isolés par-ci par-là. Donc, il va y avoir 140 commerces et restos sur 70 mètres carrés, quand même. 70 000 mètres carrés de surface totale, d'accord ? Et là, moi le chiffre qui m'a quand même le plus... 45 000 mètres carrés de commerce, 13 000 mètres carrés d'espace public extérieur, dont trottoirs, les bancs, les machins. 12 000 mètres carrés d'hôtel. Donc, on va pouvoir recevoir plein de visiteurs, etc. 6 600 mètres carrés de bureaux, quand même. Et que sur ces 70 000 mètres carrés de surface, que 6 400 mètres carrés de logement. C'est tout. Après, on va nous dire « Oh, mais il n'y a pas de logement !» Mais oui, parce qu'on entretient la pénurie de logements en construisant que des bureaux, que des commerces et que des trucs de loisirs pour divertir les gens, mais pas pour les loger. Voilà, donc vous cherchez un logement, vous n'en avez pas. Par contre, ils peuvent vous faire des promos sur les chaussures. Ça, c'est important. Et donc, sur tout cet espace, donc quand même que je rappelle, qui est 70 000 mètres carrés de surface... Canopia, qui veut dire quand même canopée, c'est-à-dire donc ils ont quand même une ambition que ça soit vert, etc. Donc moi je m'attendais à un truc de fou. Seulement 600 arbres. Alors moi c'est les chiffres qu'il y a sur leur site, hein. Attention, hein. Je suis allée sur leur site,
c'est
j'ai pris les chiffres sur le site. Ils vont planter sur 70 000 m² de surface totale de l'espace foncier 600 arbres. Voilà, ce qui fait 0,0085 arbres par mètre carré. En plus.
Bien.
On est loin des chiffres de l'OMS.
On est loin de la construction grandeur nature, comme ils appellent ça.
Donc, bah écoutez, ça va être encore un truc super. Alors, ils ont décidé aussi, là, j'ai vu passer un truc, ils vont faire un projet d'arc frais. Donc ça, c'est l'environnement Bordeaux, c'est-à-dire qu'avec les jardins des voisins entre le cours de la Somme, le cours de la Marne, le cours Alsace-Lorraine, le cours Victor Hugo et le cours d'Albret, là, il y a un nouveau truc qui se fait, là, c'est avec tous les jardins et les parcs. Tu vois, regarde, je te montre le truc. Je vois si vous le voyez, là. Voilà.
Voilà, c'est le truc. On le voit à la régie.
C'est le truc en bleu. Voilà, oui. C'est un arc frais. Okay. Pour rafraîchir l'intérieur, voilà. Donc, c'est un arc frais. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner, mais voilà, on fait des arcs frais maintenant. On ne fait plus du béton, on fait des arcs frais.
OK.
Voilà. Donc, eh bien, écoutez, ça, c'était les dernières nouvelles de Canopia.
Merci, Valérie.
Et si, quand même, parce que je voulais dire qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai tapé... comme ça, juste par acquis de conscience, actualité de la planète. Et voilà sur quoi j'ai tombé. C'est un débat qui agite Internet depuis 3 jours sur l'environnement. Voilà, sur un problème grave, extrêmement grave environnemental. Non, je rigole pas, c'est extrêmement grave. Et que les gens s'interrogent beaucoup sur Internet depuis 3 jours. Donc 3 jours, c'est énorme. Tellement ils s'interrogent que 20 minutes a quand même demandé à des experts... tu vois, de plancher sur ce dossier, c'est le sujet qui gagne dans un combat entre un gorille et son tome. Voilà. Voilà les questions environnementales actuelles sur lesquelles on s'interroge et qui sont extrêmement importantes. Donc voilà, dans un combat entre un gorille et son tome, qui sait qui va gagner. Voilà. Donc, je laisse le fin mot. Je vous dis à bientôt.
À bientôt.
À la rentrée, je laisse le fin mot à mon ami des proches qui, lui, est toujours d'actualité, hélas, et qui a tout compris. À bientôt. Merci,
à bientôt.
Samuel.
Merci à toi aussi.
Il y a eu l'année de la femme, il y a eu l'année de l'enfant. 1982 a été désignée en haut lieu pour être l'année des cons.
C'est étonnant, non ?
Je me trouve ce soir chez le professeur Macaulay-Luchard, qui a été choisi en haut lieu, pour organiser et pour superviser cette année des cons. Alors, tout d'abord, professeur, merci de nous recevoir chez vous.
Je vous en prie.
Et alors, j'imagine que si vous avez été désigné pour assumer cette lourde responsabilité, cette mission importante, c'est que vous devez être vous-même très con.
N'exagérez rien, disons simplement que je suis un vrai con. Ou sacrément con, si vous préférez.
Oui. La première question que tout le monde se pose, c'est, en un mot, où sont les cons ?
Bien que votre question ne soit pas particulièrement conne, je vais tâcher d'y répondre.
Voici la carte conographique de la France qui nous montre assez clairement la répartition géographique des cons dans l'hexagone. En rouge, vous voyez les départements à forte densité de cons. En jaune, les départements à moyenne densité. En vert, les départements à faible densité conographique. Si l'on compare cette carte à celle de la répartition démographique, que constatons-nous ? Nous constatons qu'en France, c'est dans les départements les plus peuplés qu'on rencontre le plus de cons.
Si bien qu'on peut dire qu'au niveau de la spécificité...
Absolument. D'ailleurs, le con n'est pas immuable. Il migrate, comme nous le montre cette troisième carte. Nous voyons ici la répartition conographique estivale de la France. L'été, en effet, les cons rejoignent le littoral par ordre très serré. Ils s'agglutinent ainsi pour ne pas perdre, ne fût-ce qu'un mois par an, la chaleureuse promiscuité de la ville. Ils forment un conglomérat continu de Calais à Andaille et de Port-Vendre à Nice. On dit alors qu'ils sont un peu cons sur les bords.
Oui. Alors, seconde question que se posent tous les gens qui nous regardent, professeur Macaulay-Huchard, c'est à quoi reconnaît-on les cons ?
À sa façon de s'habiller.
Ah bon ?
Enfin, disons que c'est le meilleur moyen pour ne pas se tromper.
Ah bah, et comment s'y prend-on précisément ?
Bah, c'est très simple. Mettez 10 personnes dans une pièce, observez-les bien. Sur ces 10 personnes, il y en a au moins une qui est habillée comme les 9 autres. C'est un con.
Est-ce qu'un con peut être déconifié ?
C'est pour ainsi dire impossible.
Même s'il est pris à temps ?
À l'heure actuelle, si un con est décelé à temps, disons qu'une fois sur 100, il peut être traité.
De quoi ?
De con.
De con.
Oui, c'est un film.
Oui, effectivement. À vous entendre, professeur, on a l'impression que cette année des cons s'annonce très bien.
Ah, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit chez nous, mais en effet, je touche du bois, ça me semble pas mal parti.
Quels sont les grands événements qui vont marquer cette année des cons ?
Les événements habituels, de ce côté-là, nous n'avons pas changé grand-chose par rapport aux autres années, où tout s'est toujours très bien passé pour nous, nous le reconnaissons. Non, c'est plutôt sur le plan culturel que nous avons fait un très gros effort, puisque nous allons inaugurer le musée des cons. Un musée immense qui montrera toutes les œuvres réalisées par les cons depuis 20 ans.
C'est énorme.
Oui, on s'aperçoit que c'est considérable, bien plus qu'on ne pouvait le penser.
Et quel sera le prix d'entrée alors de ces salles ?
500 francs pour les cons, 10 pour les autres. Je ne vous cache pas que nous espérons faire une belle recette qui me sera d'ailleurs intégralement remise pour être sûr qu'elle ne soit pas intelligemment dépensée ou placée, ce qui serait trop con après tous les efforts que nous avons déployés pour organiser cette année.
Alors, je crois qu'on peut dire quand même, professeur, que tout a été prévu jusque dans le moindre détail pour que cette année des cons 1982 soit une réussite absolument totale sur tous les plans. Je vous remercie, professeur Macaulay-Huchard. Quant à moi, il ne me reste plus...
Quel con, là. Vous êtes trop con. Alors vraiment, c'est l'année.
C'est étonnant, non ?
Wanted Radio. Première sur la nature en ville. Wanted Radio, en toute indépendance.